Chapitre 15. Les blessures de la vérité. Les vérités qu'on aime le moins apprendre sont celles qu'on a le plus d'intérêt à savoir. Proverbe chinois. Boston, 2010, 17h. Il faisait nuit. La neige s'entassait dans les rues de Boston en couches épaisses et silencieuses. De gros flocons duveteux tombaient sur le pare-brise du taxi avant d'être chassés par les puissants essuie-glaces. La voiture arriva sur Boylston Street et déposa Emma au pied du Four Seasons. Le portier l'aida à descendre de la berline et l'escorta avec son parapluie jusqu'aux portes de l'hôtel. Plongée dans ses pensées, la jeune femme traversa le hall sans s'arrêter. Alors qu'elle se dirigeait vers les ascenseurs, le réceptionniste en chef l'interpella. « Madame Lovenstein, votre petit frère est arrivé il y a une heure. J'ai pris l'initiative de l'installer dans une chambre attenante à votre suite. » « Mon petit frère ? Comment ça, mon petit frère ?» Elle monta jusqu'au 7e étage et débarqua dans sa chambre pour y découvrir Romuald Leblanc. Allongé sur le canapé, il grignotait les chips du minibar en buvant une canette de soda. Il avait branché ses enceintes sur lesquelles reposait un baladeur qui crachait un morceau de Jimi Hendrix. « Tête de blatte ?» Emma regarda autour d'elle. Le gamin avait apporté avec lui tout son barda. Une valise, un sac à dos, une besace, même son drone était posé sur la table basse du salon. « Qu'est-ce que tu fous ici ? » demanda-t-elle en baissant le son de la musique. « Je suis venu vous aider, » répondit l'adolescent la bouche pleine. « M'aider à quoi ? » ?»« Je pense que vous avez des ennuis. Vous ne venez plus travailler, vous recevez des emails étranges, vous vous introduisez en douce chez les gens, visiblement, vous menez une enquête. Et en quoi cela te concerne ? Ça me concerne parce que vous finissez toujours par me demander de l'aide. » Emma le regarda en plissant les yeux. Il n'avait pas forcément tort, mais elle refusait de rentrer dans cette logique. « Écoute, mon garçon, c'est très aimable à toi, mais tu vas me faire le plaisir de reprendre tes affaires et de te tirer de la fissa. »
« Pourquoi ?»«
D'abord parce que tu es mineur. Ensuite, parce que tu es sur le territoire américain illégalement et qu'en France, tes parents doivent s'inquiéter pour toi. » Enfin, parce que j'ai déjà assez de problèmes comme ça sans me charger d'un poids supplémentaire, toi. Il se leva du canapé d'un bond, bien décidé à ne pas abandonner. Mais je peux vous aider à enquêter. À deux, on va plus vite et on réfléchit mieux. D'ailleurs, la plupart des grands enquêteurs forment un duo. Sherlock Holmes et le Dr Watson, Batman et Robin, Starsky et Hutch, Brett Sinclair et Danny Wilde. Bon, ça va, tu ne vas pas tous me les citer, s'énerva Emma. Lois et Clark. « Hit Girl et Big Daddy, Richard Castle et Kate Beckett », continua Romuald dans de grands gestes. « Ça suffit maintenant » cria-t-elle. « Je t'ai dit non. Et non, c'est non. » Elle sortit son ordinateur de son sac, le posa sur la table et souleva l'écran. « Tu m'as aidé, c'est vrai, et je t'en remercie. Pour la peine, je vais t'offrir un billet retour pour Paris. Je veux bien aussi te payer une nuit d'hôtel, mais au Hilton de l'aéroport, pas ici. » Le geek émit un grognement de colère. Joignant le geste à la parole, Emma fit glisser le curseur pour se connecter au site de Delta Airlines. « Attendez !» réclama Romuald. Emma interrompit son geste. « Quoi encore ?»«
Cette photo » s'exclama-t-il en pointant l'ordinateur.
C'était une capture d'écran de la scène filmée dans le pub, représentant Kate en compagnie de son amant.
« Quoi, tu connais cette femme ?»«
Elle non, mais l'homme, bien sûr !» Emma sentit un frisson dans son ventre comme un shoot brutal d'adrénaline.
« Je t'écoute ?»«
Ce type, c'est Nick Fitch. C'est une véritable légende et l'un des hommes d'affaires les plus mystérieux et les plus riches du monde. »
Boston, 2011.
Allongée sur un pouf moelleux en compagnie de son petit chien, Emily regardait enfin son film préféré, le fameux SOS Fantôme.
« Ça fait peur, hein, Clovis » rigola-t-elle en se blottissant contre le charpeil.
Assis sur l'un des tabourets entourant l'îlot de la cuisine, Matthew était plongé dans la lecture de la notice du kit qu'il venait d'acheter dans l'un des drugstores de Charles Street. April le regardait d'un œil réprobateur et consterné. Rien n'était plus simple que de faire un test de paternité aux États-Unis. Pour la somme de $30, vous pouviez acheter un kit sans ordonnance dans l'une des 20 000 pharmacies du pays. Même certaines grandes surfaces les commercialisaient. La réalisation du test était à la portée de n'importe qui. Il suffisait de fournir deux échantillons de cellules exfoliées prélevées sur l'intérieur de la joue grâce à des sortes de gros cotons-tiges. Le premier échantillon était celui du père et le second celui de l'enfant. Matthew se lança le premier. Il enfonça le bâtonnet de coton dans sa bouche et, pendant une trentaine de secondes, frotta l'intérieur de sa joue avant de glisser l'échantillon dans l'enveloppe prévue à cet effet sur laquelle il avait auparavant complété le formulaire imprimé. Puis il sortit de la poche de sa veste le paquet de sucreries acheté à l'épicerie. «
Chérie, tu veux des oursons à la guimauve ?»«
C'est vrai, tu m'en as acheté ?»
s'écria la petite fille en écarquillant les yeux. Elle se leva de son pouf pour se précipiter vers lui.
« Merci, papa !»
Mais d'abord, il y a un tout petit exercice à faire.
« Ah bon ?»«
C'est trois fois rien, tu vas voir, ouvre la bouche. » La petite fille s'exécuta et délicatement il renouvela l'opération pour lui prélever quelques cellules de peau. « Je compte jusqu'à 30 et tu as tes nounours, d'accord ?»« 1, 2, 3... » April lui lança un regard plein de colère et de mépris. «
Tu es vraiment misérable » murmura-t-elle.
Il ne prit même pas la peine de lui répondre.
« 28, 29 et 30.
Bravo ma puce, tu as bien mérité tes bonbons.
Je peux en donner à Clovis ?»«
Juste un petit bout pour lui faire goûter », toléra-t-il en glissant l'échantillon d'Émilie dans la deuxième enveloppe. Puis il inséra le tout dans une troisième enveloppe à bulles, en joignant son règlement, 159 $ pour le laboratoire, ainsi qu'un surplus de 99 $ pour que l'analyse ait lieu le jour même. Il termina l'opération en inscrivant le nom du laboratoire. Infinite Gene, 425 Orchard Street, West Cambridge, MA0238. En achetant le test, il avait volontairement choisi un laboratoire du Massachusetts pour que l'analyse puisse se faire le plus rapidement possible et qu'on lui communique les résultats dans la soirée, avant minuit, sur sa boîte mail. Il y avait cependant une deadline, le labo devait recevoir les échantillons avant 14 h. Il regarda l'horloge murale. 13 h 10. C'était bien sûr trop tard pour UPS ou pour FedEx, mais il pouvait toujours porter lui-même en voiture l'enveloppe au laboratoire. Même avec la circulation, il y serait en moins d'une demi-heure.
Tu peux me prêter la Camaro, April ?
Tu peux aller te faire foutre, Matthew ?
À l'autre bout de la pièce, Émilie réagit promptement.
Il ne faut pas dire des gros mots, April !
La gronda la petite fille en bouchant les oreilles du charpeil. Matthew enfila son manteau et prit sa mallette.
« Tant pis, j'attraperai un taxi sur Beacon Street », dit-il en mettant la grande enveloppe sous son bras.
Resté seul, April encaissa le choc. Il fallait absolument qu'elle empêche son amie de faire une connerie. Elle s'approcha du coussin capitonné où Émilie et Clovis se prélassaient. « Je suis obligée de te laisser seul quelques minutes, mon cœur. Alors tu vas me promettre de ne pas faire de bêtises, d'accord ?» Un peu inquiète, la petite fille pinça les lèvres.
« Je ne joue pas avec les allumettes, c'est ça ?»«
Tu restes sagement devant SOS Fantôme et tu attends l'arrivée du bibindum chamallow. C'est ton passage préféré, n'est-ce pas ?» Elle acquiesça en silence. April pointa ensuite un index menaçant en direction du charpeil.
« Et toi, l'hippopotame, tu as intérêt à bien monter la garde !»
Elle passa son imperméable, cueillit ses clés de voiture et sortit sur Louisburg Square. La Camaro était garée de l'autre côté du parc. Elle mit le contact, fila tout droit pour attraper Charles Street et grilla allègrement le feu au croisement qui permettait de rejoindre Beacon Street. Si Matt avait pris un taxi sur l'avenue, il devait encore être dans les environs. April zigzagua entre les véhicules, dévisageant les passagers à l'arrière des taxis chaque fois qu'elle en croisait un. Rapidement, au bout de 500 mètres, elle repéra Matthew dans un clean air cab, l'un de ces taxis hybrides qui se multipliaient en ville depuis 2 ou 3 ans. D'un coup d'accélérateur, elle se porta à son niveau et adressa un signe à son ami pour l'inciter à descendre. Mais Matthew n'était pas décidé à obtempérer. Au contraire, il se pencha vers le chauffeur pour lui demander de presser l'allure. Après, il soupira et rétrograda pour se replacer dans la roue de la Toyota. Elle laissa le taxi s'engager sur la structure de fer du Harvard Bridge, puis accéléra. Sur quelques mètres, les deux véhicules roulèrent dangereusement côte à côte jusqu'à se frôler. Puis le chauffeur de taxi prit peur et décida de se ranger sur la file de droite.
« Sortez de ma voiture !» ordonna-t-il à Matthew. « Vous allez m'attirer des ennuis !»
À son tour, April s'est égaré derrière le Green Cab. Matthew essaya de convaincre le chauffeur de reprendre sa course, mais il ne voulut rien savoir et démarra au quart de tour pour rejoindre le centre-ville. April mit ses feux de détresse et claqua la porte de la Camaro dans un concert d'avertisseurs sonores. Il était dangereux et strictement interdit de stationner sur l'une des quatre voies du pont.
« Allez, Matt, rentrons à la maison »
cria-t-elle en le rejoignant sur la rampe réservée aux promeneurs et aux joggeurs.
« Il n'en est pas question. De quoi tu te mêles, bon sang ?»« À quoi ça va t'avancer de faire ce test de paternité ?»
demanda April en haussant la voix pour couvrir le bruit de la circulation.
« Est-ce que tu aimeras moins Emily si ce n'est pas ta fille biologique ?»« Bien sûr que non, mais je ne veux pas vivre dans le mensonge !»
« Réfléchis bien, Matt, » conseilla-t-elle en lui posant la main sur le bras.
« C'est tout réfléchi. J'ai droit à la vérité. Je veux comprendre ce qui s'est passé avec Kate. Je veux savoir pourquoi elle m'a trompé et avec qui.
Kate est morte, Matt. Il serait temps que tu l'acceptes. Tu as vécu des années heureuses avec elle et quoi qu'il ait pu arriver avant, c'est toi qu'elle a choisi pour être le père de son enfant. »
Matt écouta l'argument, mais sa peine était trop grande.
« Tu ne comprends pas. Kate m'a trahi. J'avais mis toute ma confiance en elle. J'ai quitté ma femme pour elle. Tu n'aimais plus Sarah depuis longtemps, » objecta-t-elle. « Peu importe. Pendant 4 ans, j'ai laissé entrer dans ma vie une étrangère, quelqu'un que je croyais connaître. Il faut que je sache qui elle était vraiment. Il faut que j'enquête sur elle. »
April empoigna Matthew par le col et le secoua sans ménagement. « Mais elle est morte, putain ! Réveille-toi ! Pourquoi perdre du temps à fouiller dans le passé des gens ?»«
Pour les connaître vraiment, » répondit-il en se libérant de son emprise.
« Et moi, tu me connais vraiment ?»
demanda-t-elle, changeant de façon inattendue l'angle de la conversation. Il fronça les sourcils.
« Oui, je crois. Enfin, tu es ma meilleure amie et... »«
Qu'est-ce que tu connais réellement de moi, Matt ?»«
Eh bien, tu es né près de San Diego. Tes parents tenaient une boutique d'antiquités. Tu as étudié l'art à UCLA, en Californie.
Ça, c'est ce que je t'ai raconté. Mais ce n'est pas la vérité. Ma mère a dû coucher avec la moitié des hommes du Nevada et n'a jamais été capable de me dire qui était mon père. Elle n'était pas antiquaire. C'était une pocharde qui n'a jamais rien fait de sa vie à part escroquer les gens et se saouler la gueule. L'art, je ne l'ai pas étudié à l'université, mais à Chowchilla, dans la plus grande maison d'arrêt pour femmes de Californie. Et oui, Matt, tu vois, j'ai fait de la prison. »
Déconcerté, Matthew regarda sa colocataire dans les yeux. Pendant quelques secondes, il pensa même qu'elle plaisantait, mais ce n'était pas le cas.
« Je ne vais pas te peindre un tableau à la Dickens, » poursuivit April. « Mais j'ai eu une adolescence et une jeunesse compliquées. De mauvaises fréquentations, des fugues précoces et de la dope. Beaucoup de dope. À une époque, j'étais prête à faire n'importe quoi pour m'en procurer. Vraiment n'importe quoi. »
Une larme coula soudain sur la joue de la jeune femme. Dans sa tête, des images douloureuses et humiliantes refirent surface comme par effraction, mais elle les repoussa.
Évidemment, ma descente aux enfers m'a conduite en prison. À 22 ans, les flics m'ont arrêté après un vol avec violence. J'en ai pris pour 3 enfermes à Chowchilla. Voilà qui je suis vraiment.
Elle s'arrêta comme pour reprendre son souffle, chassa une mèche de cheveux que le vent faisait flotter devant ses yeux.
Mais je ne suis pas que ça, reprit-elle enfin. Je suis aussi cette femme qui s'est battue pour avoir une seconde chance, qui a refait sa vie à l'autre bout du pays, qui n'a plus touché à la cam depuis 10 ans et qui a monté avec succès sa propre galerie d'art.
« Tu pouvais me faire confiance, » affirma Matthew. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit cela dès le début ?»«
Parce qu'il faut aller de l'avant, parce que le passé est le passé, parce qu'il faut laisser les morts avec les morts. »
Matthew baissa la tête. April acheva de le convaincre.
« Reste-en là. Ne prends pas le risque de tout remettre en question et de t'infliger encore plus de peine. Les apparences sont souvent trompeuses, et Kate n'aura jamais la possibilité de te donner sa version des faits. Laisse-lui le bénéfice du doute. En faisant ce test de paternité, en fouillant la vie de Kate, tu ne vas faire que 2 victimes, toi et ta petite fille. Tourne la page, Matt, je t'en supplie. »
Abasourdi, des larmes plein les yeux, Matthew abandonna sa mallette à April. Elle en sortit l'ordinateur portable et l'enveloppe destinée au laboratoire. Du haut de la rambarde, elle les précipita de toutes ses forces dans le fleuve. Puis elle aida Matthew, effondré, à s'installer sur le siège de la Camaro avant de le ramener chez lui. L'enveloppe à bulles fut emportée par la force du courant de la Charles River et se retrouva rapidement noyée dans l'océan Atlantique. Quant à l'ordinateur, il s'enfonça dans les eaux froides, d'où personne ne pourrait jamais le repêcher, empêchant définitivement toute nouvelle communication entre Matthew et Emma. Sauf que les choses n'étaient pas si simples.